Choisi de continuer un peu dans cette ligne. J'ai choisi un texte dans Jean chapitre 21. C'est un texte où Jésus apparaît pour la troisième fois à ses disciples après sa résurrection. Ses disciples, ou quelques-uns de ses disciples, en tout cas, ils l'attendent en Galilée et ils partent pêcher. Ils pêchent toute la nuit et ils prennent rien du tout. Vous savez certainement que beaucoup d'entre eux étaient pêcheurs, hein, c'est leur job. Ils retournent à leur job et rien du tout. Au bout de la nuit, Jésus est là sur la rive et il leur dit de tirer les filets du côté droit de la barque et les filets se remplissent. C'est vraiment le miracle. Et là, ça fait tilt. Jean reconnaît immédiatement Jésus. Ça fait tilt parce que ça fait directement écho à ce qui s'était passé au moment de la vocation qu'ils avaient reçue, où Jésus les avait appelés à le suivre. C'était exactement le même miracle. Et Jésus leur avait dit, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Vous vous rappelez peut-être de ce texte. Ils reconnaissent Jésus, ils courent à sa rencontre, ils passent un bon moment d'échange avec lui autour d'un repas. C'est intéressant que même ressuscité, hein, Jésus passe des bons moments avec ses disciples autour d'un repas. Il leur rappelle la vocation hein, par ce qui se passe là. Et puis, Jésus va avoir un entretien particulier avec Pierre. Et c'est ce que nous allons lire maintenant. C'est dans Jean 21, verset 15 jusqu'au 19. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. » « Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Je ne sais pas si vous avez remarqué la façon dont Jésus parle à Pierre dans ce texte. Pierre, qu'il appelait toujours Pierre, il l'avait surnommé comme ça. Là, il l'appelle d'une façon très, très solennelle. « Simon, fils de Jonas », un peu le titre officiel. Et ça donne un côté très solennel à ce texte, à cette façon de lui parler. Et je pense que ça montre à quel point c'est un moment important pour Pierre. Il est en pleine crise, Pierre. Une crise de foi, une crise de confiance. Et il a besoin vraiment d'être rétabli par Jésus. Et Jésus va lui demander trois fois s'il l'aime. Et pour comprendre ce qui se passe, en fait, il faut revenir un peu en arrière. Et dans le texte de Matthieu 26, Jésus, juste avant d'être arrêté, il avait averti ses disciples que ça allait mal se passer. Il avait averti qu'ils allaient l'abandonner. Vous allez me renier, vous allez me laisser. Voici ce qu'il leur avait dit. Si on peut mettre le texte, Matthieu 26, versets 31 à 35. « Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir pour toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. On voit dans ce texte un Pierre qui est très présomptueux. Il est très sûr de lui, au point même de contredire Jésus. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Hein. Il dit, mais non, Jésus, là, tu te trompes, ce n'est pas vrai. Il avait déjà dit ça à Jésus quand Jésus lui a parlé de sa mort. Jésus, pas vrai, ça n'arrivera pas, jamais. Il n'accepte pas la croix. Ici, il n'accepte pas leur reniement, leur manque de courage. Non, ça ne se passera pas. Jésus, tu te trompes. Ça vous paraît peut-être bizarre, hein, mais est-ce que parfois on ne dit pas à Dieu aussi qu'il se trompe ? C'est pas juste Dieu, tu te trompes, c'est pas comme ça que ça se passe. Et pourtant, Pierre, il va dire que Jésus a tort, mais il va aussi se placer un peu comme un super disciple. Même si tous les autres te laissent, moi jamais. Moi, je suis au-dessus de la mêlée. Même si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et Jésus l'avertit, trois fois, tu vas m'abandonner avant que le coq chante. Et bien sûr, Jésus a raison. Et au moment où le coq chante, Pierre se souvient de ça. Tout d'un coup, il s'en souvient. Il voit le regard de Jésus et il pleure amèrement. On ne sait pas ce qu'il y avait dans ce regard, mais moi j'imagine qu'il y avait beaucoup d'amour. Pierre a besoin maintenant de cet entretien avec Jésus. Il a besoin d'être rétabli dans son identité. Lui qui pensait être le super disciple, il ne pense plus grand-chose. Et je trouve très intéressant ce qui se passe là. Jésus qui dit à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ?» Et face au renégat, Jésus ne l'interroge pas sur sa foi, sur sa repentance, ou il ne lui parle pas de son pardon, ce que moi j'aurais imaginé qu'il ferait. Non, il ne fait pas tout ça. Il l'interroge sur son amour pour lui. Et ça ramène vraiment au premier commandement, à la chose qui est la plus importante pour Dieu. Ce que Dieu demande en premier aux êtres humains, aime ton Dieu. Jésus, il va utiliser un verbe grec qui est bien connu, peut-être que vous l'avez déjà entendu parler, pour parler de cet amour profond et spirituel, il va parler du verbe agapeo. Il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes de cet amour spirituel et profond? Est-ce que tu m'aimes comme ça? Et est-ce que tu m'aimes plus que ne le font les autres? Et là, clairement, Jésus, il évoque cette tendance de Pierre, hein, de toujours se comparer aux autres pour dire qu'il est mieux, pour affirmer son identité. Il se compare aux autres. C'est une manière de savoir qui il est et puis peut-être de motiver aussi ses actions. On peut se demander si Pierre est le seul à fonctionner comme ça. Et moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que ce n'est pas le seul à faire ça, à se comparer aux autres, il est très impulsif, donc il le dit. Il dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Mais cette tendance à se comparer aux autres pour trouver son identité, je pense que c'est quelque chose qui est très humain, ce besoin de reconnaissance aussi, hein. Peut-être une comparaison pour se sentir reconnu. Mais là, Jésus, il montre qu'on fait fausse route hein, si on fait ça, si on cherche notre reconnaissance dans la comparaison. Et il le fait avec beaucoup de finesse et de justesse. Il montre en fait ce mécanisme très humain qui est celui de se comparer. Et il revient à l'essentiel, son amour pour le Christ. D'ailleurs, en parlant de ce mécanisme de comparaison, dans le texte qui suit, on ne l'a pas lu là, mais Pierre continue, il dit, mais qu'est-ce qui arrivera? Jésus vient de lui dire qu'il allait mourir martyr. Hein. Je ne sais pas si vous avez compris entre les lignes ce que ça voulait dire, mais c'est ça. Il se retourne, il montre Jean, puis il dit, puis lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Et puis Jésus lui dit, mais que t'importe hein? Toi, suis-moi. Encore une fois, il se compare, il veut savoir, et l'autre, qu'est-ce qui va lui arriver, etc. Jésus lui dit, non, toi. J'aurais envie aussi maintenant de vous faire une citation d'un auteur qui n'est pas du tout chrétien, mais je trouvais que ce qu'il dit sur ce mécanisme illumine vraiment ce passage biblique. Il s'agit de Laurent Gounel, dans son livre « Tu trouveras le trésor qui dort en toi ». Et il dit « Quand on aime, quand on ressent de l'amour, que ce soit pour un être humain, un animal, une fleur ou un coucher de soleil, on pourrait rajouter Dieu, on est porté au-delà de soi. Nos désirs, nos peurs et nos doutes se dissipent. Nos besoins de reconnaissance s'évanouissent. On ne cherche plus à se comparer, à exister plus que les autres. Notre âme s'élève tandis que nous sommes tout entiers emplis de ce sentiment, de cet élan du cœur qui s'étend alors naturellement pour embrasser tous les êtres et toutes les choses de la vie. J'ai trouvé ce texte très très beau aussi, qui montre que l'amour finalement nous pousse au-delà des comparaisons, dans un élan vers les autres. Et Pierre, il comprend le message. Dans la réponse qu'il donne à Jésus, il dit « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Pas de comparaison dans cette réponse. Et une attitude humble. Pierre, il n'ose pas affirmer ce que Jésus demande. Hein. Il demande « Est-ce que tu m'aimes de cet amour profond et spirituel ?» Il va répondre avec un autre verbe plus faible. Il va dire « Bon, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » D'ailleurs, dans cette version, j'aime bien parce qu'ils le disent avec une autre façon de formuler, parce que Pierre utilise un autre terme, « philo », qui est plus un amour-amitié, un peu moins intense. Mais, et puis pour l'asseoir, il va dire « mais toi tu sais que j'ai cet amour pour toi. » Et Jésus lui dit « prends soin de mes agneaux. » Directement de cet amour que Pierre a pour le Christ, il y a la vocation qui découle directement. Prendre soin des plus petits, prendre soin du peuple qui appartient à Jésus. Et puis ça l'amène à vraiment se décentrer de lui-même pour les autres, avec une motivation qui est bonne. Dans ce texte, Jésus va parler de ses agneaux, après il va parler de ses brebis. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec le texte que je vous ai lu tout à l'heure, celui de Matthieu 26, où Jésus se décrit lui-même comme le berger, et il dit « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Jésus, le berger, il n'est plus sur terre. Alors il appelle Pierre à s'occuper de son troupeau, de ses agneaux et de ses brebis. Jésus va répéter à Pierre une deuxième fois la même question. Cette fois, plus de notion de comparaison. Et une deuxième fois, Pierre répond de la même manière, avec le même verbe, philo. Et Jésus lui confie à nouveau la mission de s'occuper du troupeau. Puis une troisième fois, il pose la même question. Cette fois, il utilise le verbe que Pierre a utilisé, philo. Il dit, est-ce que tu m'aimes de cet amour, amitié? Et le texte nous dit que Pierre, il est triste, parce que Jésus lui demande une troisième fois. Il y en a qui ont interprété ça au fait qu'il utilise ce terme-là. Moi, je pense plutôt que c'est parce que c'est la troisième fois et que ça fait écho au reniement de Pierre trois fois. Pierre, il comprend ce qui se passe. Hein. Ce n'est pas un hasard si trois fois Jésus lui pose cette question. Trois fois il a renié, trois fois il affirme son amour. Et trois fois Jésus lui confie le troupeau. Il lui rend en fait sa légitimité dans le peuple de Dieu, dans l'Église. Et si on regarde la suite, Pierre, il va avoir un rôle capital dans l'Église qui va débuter. Ça va être lui qui va prendre la parole à la Pentecôte devant toute la foule. 3000 personnes qui se convertissent, le début de l'Église. C'est lui qui est là. Et après, dans le livre des Actes, c'est souvent lui qui prend la parole devant la foule, qui parle aux responsables religieux, qui prend les choses en main pour faire des miracles. On le voit vraiment toujours devant, avec un rôle capital. Et Jésus lui a redonné finalement confiance en lui-même pour faire cela, pour prendre ce rôle-là. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut garder pour nous de tout ce qui est dit à Pierre? On va peut-être pas prétendre avoir la vocation de Pierre, ça serait présomptueux. Jésus lui avait donné un rôle particulier tout au début de l'Église, c'est un apôtre, enfin voilà, on n'est pas des apôtres. C'est vrai, mais je pense qu'on peut quand même prendre quelque chose pour nous de fondamental dans ce qui est dit là. Et tout d'abord, la source qui doit se trouver dans la relation avec le Christ. Est-ce que tu m'aimes? Cette question que Jésus pose. Elle fait écho au premier commandement de Deutéronome 6, 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Des fois, on récite les commandements mécaniquement, sans réfléchir que c'est le premier commandement, donc c'est le plus important, c'est le plus fondamental. Et ce n'est pas pour rien, finalement, que Jésus revient à ça. C'est la source, notre amour pour Dieu, pour Jésus. Ça doit être la source de tout ce qu'on fait pour Dieu. Finalement, c'est de là. On a parlé d'être connecté au Christ, hein, mais c'est ça. C'est de cette relation-là que tout le reste doit découler. Notre relation aux autres, notre vocation, tout ce qu'on fait pour Dieu. Et ce que Jésus dit à Pierre, occupe-toi du troupeau. Moi, je vois clairement le lien avec le second commandement. Le second, ce n'est pas pour rien non plus, hein. D'aimer son prochain comme soi-même, directement du lien avec Dieu, de cet amour, ça découle sur l'amour sur les autres. Et la deuxième chose essentielle pour Dieu. Donc, notre amour pour Dieu, il doit nous amener à nous décentrer de nous-mêmes et à nous tourner vers les autres. Jésus utilise une autre image dans la Bible, celle de la vigne, où il dit que lui, il est le cep, que nous, on est les sarments, et puis qu'on doit être branché sur le cep, on doit être connecté si on veut que la vie passe, que la sève passe, qu'il y ait les fruits qui puissent pousser, parce que la vie, elle part de là. Hein, elle part du cep, elle part de notre relation au Christ. C'est de là que vient la vie. Je crois que c'est pareil dans notre vie de tous les jours. On doit revenir à notre relation à Dieu. Je me suis un peu intéressée, j'ai cherché un peu dans la Bible pour voir si Pierre avait mentionné quelque part encore cet entretien qu'il avait eu avec Jésus. Est-ce que il l'a oublié ou est-ce que ça a été quelque chose d'important pour lui ? Et je me suis arrêtée sur un texte de l'épître de Pierre, première épître de Pierre, versets 21 et 22. Ah oui, j'ai oublié de le dire, pardon, celui-là. Il dit ceci. Par lui, c'est-à-dire par Jésus, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Et dans ces deux versets, on retrouve cette relation au Christ qui est première et d'où dépend tout le reste, la foi, l'espérance, l'obéissance, la purification. Et ce dernier verset où il parle d'amour fraternel sincère et aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. J'ai été un petit peu chercher, parce que deux fois il parle d'amour dans ce texte, j'ai été un peu chercher, j'ai trouvé super intéressant qu'ils reprennent finalement les deux mêmes termes. Amour fraternel, c'est le nom en fait qui est tiré de philo, l'amour fraternel. Et cet amour ardent, agapéo, on retrouve exactement les deux pour parler de l'amour pour les autres. Moi, je crois que Pierre, il a été marqué par ce qui s'est passé dans cet entretien avec Jésus. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental pour lui, c'est quelque chose de fondamental pour nous aussi. Ce commandement de s'aimer ardemment les uns les autres. Donc je pense que c'est important dans notre vie de penser à ce double mouvement, l'amour pour le Christ, pour être orienté juste dans nos motivations, dans la source d'où vient tout le reste, et ensuite nos relations avec les autres qui vont nous amener vers des relations intentionnelles avec eux et pas juste comme ça, hein, mais il y a une intention derrière. Je vais m'arrêter là et je vais vous inviter à un moment de silence et de méditation et que ça soit l'occasion pour chacun de se recentrer sur le Christ et puis de le laisser nous parler.